Les tensions autour de l'Ukraine à présent dans RFI Midi avec une cyberattaque d'ampleur annoncée ce matin. Cyberattaque contre des sites du gouvernement ukrainien. A priori, pas de gros dégâts selon les premières communications officielles alors que s'achève une semaine de tensions et de contacts diplomatiques entre la Russie et l'Occident. On en parle avec notre invitée Marie Dumoulin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du programme Europe élargie au Conseil européen des relations internationales. Alors un mot d'abord sur cette cyberattaque qui a visé plusieurs sites du gouvernement ukrainien avec ce message « Prenez peur et attendez-vous au pire ». Est-ce que c'est la signature de la Russie ?
Alors il est vrai que dans le contexte actuel, tous les regards se tournent naturellement vers la Russie. Cela dit, les cyberattaques sont quelque chose qu'il est très difficile d'attribuer de manière certaine à un acteur en particulier, et notamment à un État. Et donc, c'est techniquement difficile. Et politiquement, le fait de l'attribuer ne fait que renforcer la perception d'une menace russe, ce qui, évidemment, dans le contexte actuel, convient à la Russie d'afficher cette menace.
Alors, les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis aujourd'hui à Brest, en France, parce que c'est la France qui assure la présidence de l'Union européenne en ce moment, avec parmi les sujets de discussion l'Ukraine. Évidemment, que peut faire l'Europe dans cette affaire ? Ce matin, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a d'une certaine manière entériné la marginalisation des Européens sur ce dossier ukrainien et sur le dossier plus général de la sécurité en Europe. Que peuvent faire donc les Européens pour se faire entendre dans ce dialogue bilatéral entre la Russie et les États-Unis ?
Ce qu'a dit Lavrov ce matin n'est finalement pas très nouveau. C'est un discours qu'il avait déjà tenu à plusieurs reprises par le passé. L'idée que le dialogue entre l'Union européenne et la Russie est rompu du fait de l'Union européenne. Et dans cette crise actuelle, la Russie a très clairement manifesté que c'était aux Américains qu'elle entendait parler et pas du tout aux Européens. Alors, les Russes peuvent être satisfaits d'avoir établi un dialogue avec Washington sur les questions de sécurité européenne, mais les Américains ont aussi insisté pour qu'il y ait en parallèle des discussions qui se tiennent dans le format OTAN-Russie d'une part et à l'OSCE, qui est l'organisation la plus englobante pour parler de sécurité européenne. Et dans ces deux enceintes, les Européens ont affiché une très grande unité sur la question ukrainienne, ce qui est évidemment un signal envoyé à Moscou. Reste à savoir s'ils parviennent aujourd'hui à définir ensemble des intérêts spécifiques à l'Union européenne qui pourraient alimenter quelque part le dialogue qui est en train de se jouer entre Washington et Moscou. Ça, c'est une autre question parce que sur la question de la relation avec la Russie, il y a aussi de très grandes divergences d'analyse entre pays européens.
La nouvelle chef de la diplomatie allemande a annoncé aujourd'hui deux déplacements, d'abord à Kiev. Et ensuite à Moscou, est-ce que les Allemands sont ceux qui peuvent le mieux parler aux Russes ?
Ça fait partie des pays qui traditionnellement ont toujours maintenu le contact avec la Russie. La France est un autre de ces pays. Et la France et l'Allemagne, conjointement, sont au sein du format Normandie pour essayer de faire se parler les Ukrainiens et les Russes du conflit dans le Donbass. Et on a vu cette semaine, en parallèle du dialogue américano-russe, une tentative des conseillers diplomatiques du président Macron et du chancelier Scholz de renouer le lien avec leurs interlocuteurs russes et ukrainiens pour essayer de relancer ces discussions.
Alors on vient maintenant au bilan de cette semaine de contacts diplomatiques, de réunions, vous l'avez évoqué, notamment à l'OTAN, à l'OSCE, et puis il y a eu en début de semaine à Genève entre Russes et Américains. Est-ce que ça a vraiment permis de faire baisser la tension ou bien est-ce que ça a été infructueux comme l'ont dit les Russes ?
Je crois que le simple fait que les discussions aient eu lieu a contribué quand même à apaiser un petit peu les tensions. Depuis ces réunions, les Russes ont un peu soufflé le chaud et le froid. Ils ont indiqué leur satisfaction que les Américains aient pris au sérieux leurs demandes. Et d'un autre côté, ils ont aussi signalé que tant qu'ils n'obtiendraient pas satisfaction, notamment sur la question de d'un éventuel élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, ils considéreraient que le résultat n'était pas satisfaisant. On peut estimer qu'il s'agit sans doute d'une manière de maintenir la pression, puisque jusqu'à présent, cette stratégie leur a permis d'imposer ce dialogue avec les Américains et que la discussion va se poursuivre. En tout cas, c'est ce qui permettrait de faire diminuer un peu le niveau de tension.
Comment vous analysez l'échec au Sénat des États-Unis, l'échec d'un projet de loi pour imposer des sanctions aux responsables du gazoduc Nord Stream 2?
C'est une question qui met en jeu non seulement la relation à la Russie, mais aussi la relation aux pays européens et notamment à l'Allemagne. Des sanctions contre Nord Stream 2, ce serait une attaque directe contre un projet que les Allemands continuent à considérer comme étant dans leur intérêt, ou en tout cas qui fait l'objet d'un débat de politique intérieure en Allemagne. Et donc, ce serait quelque part une manière pour les États-Unis de s'ingérer dans ce débat, ce qui forcément déplairait aux Allemands.
Merci beaucoup, Marie Dumoulin, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous dirigez le programme Europe élargie au Conseil européen des relations internationales. Il est 13h20 à Paris.